Radio Okapi.
De la sécurité pour ouvrir ce journal, panique, peur, déplacement des populations des 7 villages dans le territoire des Rutshuru, des présumés M23 qui tentent d'envahir cette région font face à une contre-offensive des FRDC. Toute cette situation confuse, Denise Loukesson nous en fait le point sous peu. Et puis, ce plaidoyer du Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo, CALCC, qui implore le chef de l'État d'accorder aussi aux prisonniers pasteur Ngoyi Mulunda l'amnistie et condamne en même temps les dérapages lors de la manifestation réclamant sa libération à Lubumbashi. Le député national Jean-Olive Moudekereza, élu de Walungu, parle enfin de cette édition comme invité de quelques recommandations au pouvoir de Kinshasa pour une bonne réussite du programme de développement à la base de 145 territoires de la RDC. Merci d'opter pour les différentes fréquences de Radio Okapi pour votre information. Fidèles auditeurs, bonne condition d'écoute ce journal. Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Au Nord Kivu, une psychose observe à Rougari Centre ce mercredi. C'est à environ 35 km au nord de Goma, dans le territoire de Rutshuru. À l'origine, une opération offensive enclenchée par les FRDC à partir des Rougari Centre contre les présumés rebelles du M23 qui ont attaqué depuis 2 jours les positions des Nyesisi et Ngungo à 13 km au nord-est de Rougari. Du coup, toutes les activités sont paralysées à Rougari Centre. Denise Loukesso est dans la région, elle nous décrit la situation.
Les FRDC ont lancé depuis 9h ce mercredi une contre-offensive à partir de Rougari Centre. C'est dans le but de déloger les assaillants qui se seraient retranchés vers Ngougo, ce après l'attaque lundi dernier vers 22h du village Nyesisi par les rebelles qu'on croit les combattants du M23. L'attaque qui aurait fait des victimes et des blessés dans le rang de l'armée et le déplacement massif des populations d'au moins 7 villages riverains du parc, selon les sources locales. C'est notamment les villages Nyesisi, Ruanga, Ngogo, Ndondi, Mugwata, Butaka et une partie de Kigarama. Les habitants ont fui les uns vers la paroisse catholique de Rougari, alors que les autres ont trouvé refuge à Kabaya et Kanombe. Le chef de groupement de Rougari parle d'une situation confuse. Toutes les activités sont paralysées à Rougari Centre. Les écoles ont dû retourner les élèves à la maison et le trafic routier Goma Rutshuru est de temps en temps interrompu à partir de Rougari Centre au moment où les FRDC lancent des tirs selon nos sources. La population de Rougari, elle, est dans une alerte et craint que la situation ne dégénère à des éventuels affrontements. Depuis Rougari Centre dans les Rutshuru, Denise Loukesso, Radio Okapi.
Réagissant à la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans son entité, le chef du groupement de Rougari demande au gouvernement congolais de prendre en charge cette question en lui accordant une attention particulière. Pour le Mwami Eric Machagiro, la situation sécuritaire prend une ampleur inquiétante. Toujours dans la partie est du pays, le calme est revenu en début d'après-midi après une nouvelle tension observée la mi-journée dans certains coins de la commune de Moulekera en ville de Beni. Des groupes de jeunes qui tentaient une nouvelle fois de manifester contre l'état de siège ont fait face aux forces de défense et de sécurité. Martial Papi Moukeba nous fait le point.
L'épicentre de cette nouvelle tension est le quartier Kalinda, situé au sud-ouest de la ville de Beni. Tôt le matin, des groupes de jeunes ont érigé des barricades sur certaines rues et avenues pour empêcher la circulation. C'est le cas de la rue principale, ouvrant la voie sur les centres commerciaux et les marchés de ma campagne à partir du rond-point Katoto. Là, il y a des échauffourées entre ces jeunes et les forces de l'ordre qui tentaient de dégager la voie. La moto d'un policier a été incendiée alors que des coups de feu ont été attendus dans les quartiers pendant quelques heures. Conséquence, toutes les activités socio-économiques sont bloquées dans cette partie de la ville. Certains élèves qui tentaient de se rendre à l'école ce matin se sont vus enlever leurs uniformes par les manifestants. La police, qui n'a pas jusque-là fait le bilan de ces manifestations sporadiques, s'est dit à pied d'œuvre pour établir l'ordre public dans les quartiers Kalinda, Beni, Martial Papi Moukeba, Radio Okapi.
Dans la province de l'Ituri, environ 13 000 familles des retournés de Komanda éprouvent des difficultés pour accéder à leurs champs et s'approvisionner en produits agricoles. Pour cause, la présence des hommes armés identifiés aux présumés rebelles des ADF. La société civile locale craint que cette situation ne soit à l'origine d'une crise alimentaire dans la région. Elle appelle à une intervention des autorités. L'administrateur militaire du territoire d'Irumu demande à ses familles d'être patientes. L'armée est en train de prendre des dispositions pour mettre fin à cette situation. Martial Kizabiamungu.
C'est depuis environ 2 mois que les premières familles des retournés sont arrivées à Komanda Centre et au village environnant, notamment à Kibonge et Baïdi, après avoir fui les attaques de bas, se rendre dans leur champ situé du côté est de Komanda pour chercher à manger. Ceux qui s'y risquent sont parfois victimes des exactions des ZADF. Kakani Tandishabo indique qu'il y a une semaine, 3 personnes d'une même famille sont tombées aux mains de ces rebelles alors qu'elles se rendaient au champ. Il demande aux autorités de déployer des militaires dans cette zone.
Ils n'ont pas l'accès d'aller au champ. Leur champ se retrouve là où le présumé ADF qui continue à se voir vers ce côté-là.
Contactez l'administrateur militaire du territoire d'Irumu, reconnaît cette situation. Le colonel Jean-Siro Simba indique que des dispositions sont en train d'être prises avec l'armée pour faire face à ces problèmes.
C'est question de quelques jours, la situation sera décantée. On est en train de peaufiner ces stratégies ensemble avec les commandants et les coordonnateurs des opérations.
Notons que ces familles sont retournées dans leur milieu à la demande des autorités après l'accalmie observée à Komanda depuis plusieurs mois déjà. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Et puis cette bonne nouvelle pour la population du Maniema. Bientôt, tous les militaires se trouvant dans les différentes barrières au point chaud d'entrée de la ville de Kindu seront retirés de ces barrières. Décision prise par le gouverneur ad interim dans son message officiel du 21 janvier dernier adressé au commissaire provincial de l'Intérieur pour mettre fin aux tracasseries militaires dont sont victimes les paisibles populations. Florence Kizalunga, reportage.
Selon le message du gouverneur intérimaire, cette mesure du retrait de ces militaires dans les différentes barrières concerne les axes ci-après. Kindu Dingi, Kindu Kasongo, Muyengo, Pounia Lubutu et Kindu Kibombo. Maxime Kasea, porte-parole du gouverneur intérimaire, explique les bien fondés de cette décision.
L'objectif de cette instruction est de mettre fin aux tracasseries, une pratique courante dans différentes barrières, et permettre à la population de circuler librement. Dans le même message, l'autorité provinciale recommande à ce que tous les militaires qui étaient dans ces barrières-là puissent être retournés dans leurs bases respectives. Et en cas de récalcitrance, l'auditeur supérieur se saisira de tous ces cas-là pour prendre des mesures judiciaires appropriées.
Mesures saluées par les usagers de ces axes. L'un d'eux s'exprime.
Je suis très heureux et très joyeux. C'est une décision responsable que le gouverneur vient de prendre. Ça va nous soulager parce que dans chaque barrière, il faut donner la ration militaire. 8 barrières, c'est beaucoup d'argent pour nous. Si vous ne voulez pas qu'on puisse fouiller votre bagage, vous devez donner de l'argent. Et là, c'était un manque à gagner pour nous. Et cette décision, ça va nous amener vraiment à avancer dans nos activités économiques.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Dans le sud Kivu, 269 réfugiés burundais, soit 78 ménages du camp de Lusenda en territoire de Fizi, ont été rapatriés ce mercredi vers leur pays d'origine, le Burundi. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en collaboration avec la Commission nationale pour les réfugiés, a convoyé les camions transportant ces réfugiés jusqu'à la frontière congolaise de Kavimvira avant de les remettre à la Direction générale du rapatriement, réinsertion et réinstallation du Burundi. Il s'agit d'un premier convoi de l'année 2022. Fiston Ngoma nous en parle.
Plus d'une dizaine de véhicules transportant ces réfugiés burundais traversent la frontière de Gatumba. Les 2 premières personnes à fouler le sol de leur terre, plus de 5 ans après les réfugiés en RDC, ne cachent pas leur satisfaction. Aussitôt accueillis par les autorités burundaises, ces rapatriés vont transiter au centre de Gihanga, à 7 km de la frontière, où ils passeront 48 heures pour les formalités d'usage et la remise de paquets retour, avant d'être convoyés dans leur milieu d'origine à l'intérieur du Burundi. Nestor Bimenimana est directeur général de DGRRR Burundi.
Le gouvernement du Burundi a très bien préparé pour accueillir ces citoyens. Au mois de novembre 2021, nous avons été en mission à Rusenda et à Murungwe, dans les camps des réfugiés burundais. Nous avons constaté ensemble qu'ils ont le soif de rentrer dans leur pays natal. Nous disons merci au gouvernement de la République démocratique du Congo qui a vraiment senti ses larmes des réfugiés burundais qui voulaient rentrer au pays.
Pour l'officier de protection du HCR à Baraka en territoire de Fizi, 15 000 réfugiés burundais candidats au retour volontaire ont été enregistrés. Ils seront rapatriés au cours de cette année si les contextes sécuritaires et sanitaires le permettent, a précisé Jean Syriac Graoua. D'Ouvira Fiston Mamayaba, la Radio Okapi.
Dans un communiqué, le Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo, CALCC, demande au chef de l'État d'étendre sa mesure discrétionnaire d'amnistie en faveur du pasteur Ngoyi Mulunda, détenu pour raison d'opinion. Il condamne aussi les violences qui ont émaillé la marche pacifique du 18 janvier à Lubumbashi et exige des sanctions à l'égard de leurs auteurs. D'autres précisions avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
Dans ses communiqués, le président du CALCC, Jean Bosco Lalo, condamne la barbarie qui a caractérisé la répression du 18 janvier 2022 contre les Congolais qui manifestaient pacifiquement à Lubumbashi pour la libération du pasteur Ngoyi Mulunda, détenu en prison il y a une année. Cette manifestation, affirme-t-il, entre dans l'esprit du communiqué du CALCC du 13 janvier, demandant que la récente mesure d'amnistie du chef de l'État soit étendue à d'autres détenus d'opinion. Il encourage cependant le président de la République à accorder aussi cette faveur discrétionnaire au révérend pasteur Ngoyi Mulunda. Le CALCC demande enfin que les sanctions sévères soient prises contre les auteurs des violences survenues lors de la marche du 18 janvier 2022 à Lubumbashi.
Bonne nouvelle pour la province du Kasaï oriental. 58 sites de vaccination contre le COVID-19 viennent d'être ouverts cette semaine dans la province contre les deux sites existants depuis le début de ces opérations. Désormais, le Kasaï oriental compte 60 sites de vaccination répartis dans 14 zones de santé sur les 19 que compte la province. Selon le chef de division provinciale de la santé, 4 types de vaccins sont déjà disponibles dans les sites de vaccination pour toute personne à partir des 18 ans. Il s'agit de Johnson & Johnson, Sinovac, Pfizer et Moderna. Dr Bonheur Chitekou parle par ailleurs de certaines difficultés liées à la transmission des données dans le logiciel suite au manque de téléphones appropriés à cette tâche. Ce chef de division provinciale de la santé a été joint au téléphone par Esther Ndalafina.
Vu qu'il y a l'engouement aujourd'hui, nous sommes passés de 2 sites à 60 sites. Nous avons ajouté 58 sites pour le mode de routine. Il y a les 10 zones de santé urbaines qui vont organiser la vaccination en mode routine, plus 4 zones de santé du milieu rural. Nous avons reçu 4 types de vaccins. Dans un premier temps, on a eu Johnson & Johnson, Sinovac, Moderna et aussi Pfizer. À côté de ça, nous avons eu d'autres doses de Johnson & Johnson qui est administrée en dose unique. Bientôt là, nous allons organiser le mode campagne qui va durer 14 jours et le lancement est prévu pour le 31 de ce mois, donc le lundi prochain. On s'attend à vacciner 255 946 personnes. À cela, nous ajoutons certaines difficultés. Nous n'avons pas de téléphone qui peuvent aider nos data managers qui ont déjà bénéficié de cette formation pour arriver à encoder nos données. Avec les deux sites, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons eu à vacciner plus de 3000 personnes.
Ici à Kinshasa, après la pluie vient le beau temps, dit-on. Ce n'est pas le cas au site Marquinette, au quartier de Bonhomme, dans la commune de Matete, riverain de la rivière Ndjili. En cette période de pluie, la plupart des maisons sont inondées. Les habitants ont du mal à se déplacer et à vaquer à leur occupations. Priscilla Badjoko s'y est rendue, voici son reportage.
Les eaux de pluie ont transformé ce quartier en une petite rivière où les habitants se déplacent par pirogue pour sortir de leur maison et atteindre la route principale. Ces inondations sont dues aux intenses à Kinshasa et dans la province voisine du Congo central d'où partent plusieurs ruisseaux qui alimentent la rivière Ndjili. Témoignage.
Quand la rivière déborde, nous sommes inondés. Nous sommes obligés d'utiliser les pirogues comme moyen de transport.
Ils disent se battre seuls pour trouver des solutions, ils appellent le gouvernement à l'aide.
C'est par nos propres moyens que nous arrivons à canaliser les eaux en remplissant le sac de sable. Nous demandons à l'autorité de nous venir en aide pour canaliser ces eaux de pluie vers la rivière Ndjili.
Le bourgmestre de Matete explique que cette zone fait normalement partie de nombreuses autres non habitables à Kinshasa.
Actualité internationale.
Le ministre libyen de la Santé, Ali Zenati, et son numéro 2 ont été placés mardi en détention préventive dans le cadre d'une enquête pour corruption présumée. Ali Zenati est le troisième ministre du gouvernement intérimaire de l'homme d'affaires Abdelhamid Debeya à faire l'objet d'une enquête en l'espace d'un peu plus d'un mois. Le ministre et le vice-ministre de la Santé ont été entendus au sujet du non-respect du règlement appliqué en matière de contrats administratifs concernant en particulier la vente d'unités de production d'oxygène avec une majoration pouvant aller jusqu'à 1000% du prix d'acquisition, signale le procureur général. Le premier ministre de transition malien, Choguel Kokaila Maïga, a défendu mardi soir la demande faite au Danemark de retirer ses forces spéciales en affirmant que plus personne n'irait par procuration dans son pays. Bamako a demandé lundi au Danemark d'immédiatement retirer le contingent d'une centaine d'hommes récemment déployés au Mali pour participer à Takuba, une task force dont la France est à l'origine et destinée à accompagner les soldats maliens au combat face aux djihadistes. Selon le gouvernement malien, ce déploiement est intervenu sans son consentement.
L'invité.
Le député national Jean-Olive Moudé-Kereza plaide pour l'instauration de la rigueur dans l'exécution du programme de développement des 145 territoires de la RDC. Pour cet élu du territoire de Walungu, la réussite de ce programme sera facilitée par la mise en place d'un comité local de suivi composé selon lui des autorités coutumières, des associations des jeunes et des femmes ainsi que de l'AFEC. Le député Moudé-Kereza, notre invité, s'entretient avec Emmanuel Elameji Wakabedi.
Jean-Olive Moudé-Kereza, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en vacances parlementaires à votre base au sud de Kivu en ce moment. Pour parler du programme de développement à la base des 145 territoires, programme du gouvernement aujourd'hui, vous êtes parmi les pionniers, je crois, pour avoir proposé avant quelques projets. Vous parlez de 10 projets prioritaires qui peuvent développer le pays à la base.
J'avais transmis ces projets depuis 2019 à mon arrivée.
En 2019.
Je l'ai encore réactualisé en 2021. Et j'avais même chiffré pour donner des prix de référence. Parce que j'en ai l'expérience. J'en connais de quoi je parle. J'avais dit, si on peut mobiliser 2,5 milliards par an, on peut réaliser...
Ce qui est faisable pour la RDC.
C'est possible.
C'est qu'avec 2,5 milliards de dollars,
on peut réhabiliter et construire 10 infrastructures de base. Et j'avais dit...
Dans chaque territoire.
Territoire. Et j'avais même dit, on peut les multiplier dans chaque groupement. Avec ça, vous pouvez construire un bâtiment servant comme bureau d'administrateur du territoire, y compris même le poste de la police rapproché. Et on peut construire un bon bâtiment de 50 000 dollars. On peut construire une école de 6 classes avec bureau, toilette, latrine, au standard et aux normes de l'UNESCO. On peut faire l'addiction ou forage, ça dépend des milliers.
De Bornefontaine.
Bornefontaine. Bornefontaine, de 10 km dans un village à 100 000 dollars. Cinquième projet. Donc, une salle polyvalente de formation à métier avec équipement minimum d'apprentissage de la main d'œuvre, de formation pour avoir des main d'œuvre qualifiées.
Pour former les jeunes.
Former les jeunes dans les villages. Nous devons avoir de la main d'œuvre qualifiée. Il faut former les jeunes. C'est l'avenir de demain. Sixième projet. Vous pouvez réhabiliter 10 km avec ouverture de pistes de route avec 150 000. Vous donnez des bêches, vous donnez des roues à la population. Allons-y au travail. Septième projet. Vous pouvez construire un micro-central hydroélectrique de 50 kW à 100 kW avec 200 000 dollars. Vous ferez des micro-centrales. Vous pouvez faire même l'interconnexion pour mettre sur la ligne de la SNED et fournir la ville de Bukavu. J'ai dit c'est possible. Le gouvernement peut le faire dans chaque groupement. On peut construire, huitième projet, un centre de santé de 20 lits avec un minimum d'équipement, avec une ambulance à 200 000 dollars. L'ambulance, vous l'achetez à 50 000 et vous avez le bâtiment à 100 000 parce que vous ne voulez pas faire un développement d'un pays sans être en bonne santé. Vous pouvez faire le neuvième projet, relance de la production agricole, semences, avoir des moniteurs. Vous mettez 500 000, vous donnez des crédits rotatifs. Les femmes s'unissent ensemble, 30 personnes, vous donnez 3 000, vous revenez dans 6 mois, vous allez voir la production, vous allez voir comment ils ont fait des exploits. Et nous avons le 10e projet, la construction des marchés publics avec des toilettes et des latrines, avec l'abattoir dans chaque marché au village et avec un dépôt où il y a des moulets pour les femmes, un petit dépôt et des latrines.
Honorable, nous allons conclure sur ce programme du gouvernement de développement des 145 territoires. Quelle chance vous donnez cette fois-ci à ce programme de Samal Kondé et comment assurer le suivi pour que cette fois-ci soit la bonne, que ça réussisse?
Moi, je crois que le chef de l'État a intérêt de prendre ça à main, du suivi, de savoir comment ça évolue. Et la solution, c'est de faire des comités de pilotage au niveau de chaque territoire. Ça va être maintenant chapeauté de Kinshasa pour le suivi, mais à la base, comme le ministre des Finances avait promis que chaque mois, il va envoyer 100 000 $ par territoire. L'argent là ne peut pas être géré par quelques individus, pas par le gouverneur, pas par l'administrateur seulement. Il faut que les représentants des chefs de groupement, la société civile, l'AFEC, l'association des femmes et des jeunes soient impliqués avec un comité de 7 personnes dans chaque territoire. On cible quel est le projet, quel est le réel coût, vous allez voir. Ça sont des projets exceptionnels. On doit prendre aussi des mesures exceptionnelles. Et si les chefs de l'État, y compris le Premier ministre qui doivent suivre le projet et le gouvernement, si on ne les suit pas de près, ça sera l'échec. Et si on échoue à ça aussi, ça sera vraiment... Et je crois que ce que je l'ai raconté une seule fois, c'est un homme de volonté. Il faut qu'il soit entouré, qu'il soit accompagné de réels agents de développement.
Honorable Jean-Olive Moudekereza, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Mesdames et messieurs, ça en est ainsi fini avec cette édition du journal Vespéral sur Radio Okapi, préparée par Élisée Chikota, Noëlla Luzitu, Alain Irung et l'ensemble de la rédaction. Billy Ivan Lutumba était devant ce micro pour la présentation. Au nom de toute cette équipe, je vous dis sincèrement merci.